revue de presse signée Catherine Potet. Bonjour Catherine.
Bonjour Arnaud.
La presse qui s'interroge sur l'avenir de la transition écologique en France.
La question se pose avec acuité après la démission de François de Rugy et son remplacement par la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Pour La Croix, la nouvelle ministre de l'Environnement dispose de nombreux atouts pour le poste. Elle a été directrice de cabinet de Ségolène Royal lorsque celle-ci était ministre de l'Écologie en 2014 et 2015. Et elle est notamment à l'origine du projet de loi sur les mobilités, un secteur clé pour réduire les gaz à effet de serre. Pour La Croix, Elisabeth Borne a donc déjà un pied dans certains dossiers majeurs de la transition climatique. Libération est moins optimiste. Le journal relève qu'Elisabeth Borne est simple ministre et non pas ministre d'État comme l'était François de Rugy. Une décision vivement regrettée par une partie de l'opposition qui voit l'expression d'un renoncement, précise Libération. Mais le quotidien cite aussi les propos de Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, qui balaie la critique d'un revers de main. Cette mention de ministre d'État, pour ne rien vous cacher, dit-elle, n'entraîne pas de différence effective dans la capacité à déployer des politiques publiques.
D'autres journaux commentent cette nomination de manière plus critique.
C'est le cas du Midi Libre. Avec Elisabeth Borne, estime le journal, Emmanuel Macron et Édouard Philippe peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Cette technocrate n'est pas du genre à avoir des états d'âme sur les migrants ou le glyphosate, ni à faire des vagues avec son train de vie. Elisabeth Borne, conclut le Midi Libre, est un serviteur de l'État sans faille, une sorte de ministre au sang-froid. De son côté, Mediapart, dont les révélations ont poussé François de Rugy à la démission, ne se montre pas plus tendre envers Elisabeth Borne. Quel signe faut-il voir dans sa nomination express au ministère de l'écologie, censé être un des plus importants du gouvernement, s'interroge Mediapart, qui répond aussitôt. Tout laisse à craindre que ce ne soit pas le signe du sursaut, de la rupture, de l'urgence qu'appelait de ses voeux Nicolas Hulot lors de sa démission fracassante en août 2018. En effet, selon le site d'information en ligne, Elisabeth Borne semble appelée à s'inscrire dans une vision technocratique et néolibérale de l'écologie défendue par le gouvernement. Elle aurait même pour mission de démanteler EDF comme elle a réformé la SNCF, ce qui, dans l'esprit de Mediapart, n'est pas vraiment un compliment.
La réforme des retraites fait également la une de la presse française ce jeudi.
Cette fois, on y est, enfin presque, se réjouit le Figaro que la question semble passionner. Après plus de 18 mois de réflexion, simulation, concertation, le haut commissaire Jean-Paul Delevoye dévoile les grandes lignes de la réforme des retraites promise par Emmanuel Macron pour corriger un système largement incohérent et inéquitable. Nettement moins optimiste, l'Humanité juge que le même Jean-Paul Delevoye est en mission pour faire accepter l'implosion des retraites. Le journal stigmatise le passage à un régime à points. L'intérêt d'un tel système pour le pouvoir, ajoute l'Humanité, c'est que les intéressés ne sauront rien à l'avance. Le Monde, de son côté, donne la parole à ceux qui travaillent après la retraite. Pour le sentiment d'être encore utile, par peur du déclassement social, pour le plaisir de travailler ou par nécessité économique. C'est le cas de Janine Belperche, raconte Le Monde. À la retraite à 62 ans, en août 2018, ses revenus ont été divisés par deux. Très vite, Janine a repris du service. Cette mère célibataire de 6 enfants travaille de nuit. Elle distribue un journal, ce qui lui rapporte environ 500 euros par mois. « J'ai commencé à travailler à 16 ans », explique Janine Belperche. « Je pensais pouvoir profiter de ma retraite, faire quelques petits voyages. Je suis condamnée à travailler jusqu'à la fin de ma vie. »
Le Figaro revient sur l'arrestation de la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkham.
Arrêté début juin par les gardiens de la Révolution, précise le journal qui s'intéresse à ces binationaux dont on ne connaît pas le nombre, détenus en Iran. Parmi eux, explique le Figaro, figurent plusieurs Britanniques et Américains ressortissants de pays hostiles à Téhéran. Tout en niant que les binationaux servent de moyens de pression, poursuit le journal, l'Iran admet que ces prisonniers puissent faire l'objet d'échanges ponctuels. En fait, c'est pratiquement toujours le cas. Les accusations d'espionnage généralement portées contre eux n'étant qu'un alibi. Concernant Fariba Adelkham, le Figaro estime qu'elle pourrait être utilisée comme moyen de pression contre la France dans un jeu diplomatique sans pitié, alors qu'Emmanuel Macron cherche à éviter une confrontation armée entre la République islamique et les États-Unis. A-t-on aujourd'hui les nouvelles de la chercheuse franco-iranienne ? Selon l'un de ses confrères et amis cités par le Figaro, elle n'est pas maltraitée et elle a pu recevoir la visite de sa famille.
Enfin, La Croix fait sa une une sur les chevaliers de la mer.
Une nouvelle génération d'ONG porte secours aux migrants, explique la Croix, qui s'intéresse notamment à Sea-Watch, l'ONG allemande dont le bateau a forcé récemment le blocus italien pour conduire à terre une quarantaine de migrants secourus en mer. Ces missions sont financées à 100% par des dons de particuliers et de petites entreprises, explique la Croix. Sea-Watch a été créé fin 2014 par un commerçant berlinois, Harald Höppner, invité dans une émission de télévision pour parler du projet qu'il était en train de monter. Il demande alors au public et aux invités de se lever pour observer une minute de silence en hommage aux 700 réfugiés morts quelques heures plus tôt au large des côtes libyennes. C'est le début de la médiatisation de Sea-Watch, à laquelle adhèrent aujourd'hui plus de 500 volontaires dans le monde entier.